Mise en route des systèmes informatisés. Lancement de la causerie en mode confiné. Accrochez-vous, pandémie ou pas, votre émission est là.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Guten Abend, bonsoir, good evening, wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien!
C'est de retour dans la causerie confinée, toujours au 102.2 et sur radiocanu.org, évidemment. Donc, comme tu es dimanche soir, et ce soir, pas dans les studios, mais devant chacun son ordi, nous avons MK.
Bonsoir tout le monde.
Nous avons Clara.
Bonsoir.
Nous avons Fab.
Bonsoir.
Et nous avons Jean-Yves qui nous a fait l'ouverture.
Bonsoir, moi.
Bonsoir, Jean-Yves.
Et alors, avant de commencer cette causerie, en tout cas d'aller plus loin, on va vous rappeler évidemment comment nous joindre. C'est toujours par mail à lacauseriecanu@gmail.com. lacauseriecanu@gmail.com. Et évidemment, vous retrouvez tous les posts, toutes les anciennes émissions, les podcasts, sur le blog de la causerie, et c'est toujours à blogs.radiocanu.org/la causerie. Et évidemment, vu que mes camarades le disent toutes les semaines, nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute, enfin presque toutes, et sur un réseau socio-commercial qui commence par Face et qui termine par Hook. Voilà. Et ben voilà, je crois que j'ai tout appris.
Et ce soir, émission spéciale, parce qu'on a eu la chance de pouvoir mener une interview avec Delphine, que nous avions reçue en 2018, qui est une aide-soignante dans une EHPAD, et qui nous a fait, on va dire, la joie, même si ce n'était pas forcément très joyeux, de nous offrir un peu de son temps pour nous dire ce qui se passe aujourd'hui dans les EHPAD avec cette épidémie de Covid et les moyens qu'ils ont réellement ou pas. Voilà. Donc, on vous laisse écouter et puis on se retrouve juste après l'interview. Et bonsoir, ce soir, on retrouve Delphine que nous avions reçue dans la causerie.
Dans la causerie numéro 238 du 4 février 2018, donc il y a un peu plus de 2 ans maintenant.
Voilà, et Delphine travaille en EHPAD, et dans cette période de confinement et de coronavirus, on s'est dit que c'était bien d'avoir un petit peu le point de vue de quelqu'un directement concerné. Vous savez, c'est ces personnes que l'on applaudit au balcon le soir pour se donner parfois bonne conscience, mais autant de savoir pourquoi on les applaudit justement, ces personnes, et pourquoi il faut peut-être faire plus que les applaudir. Voilà, alors ce soir, on est en présence de Clara.
Bonsoir.
Jean-Yves.
Tout à fait, bonsoir. Et Fab, évidemment.
Et donc Delphine.
Bonsoir.
Et on est tous confinés chez nous et on fait ça, comme d'habitude, via l'informatique en ce moment. Mais on va y arriver, ça va être très bien. On va commencer par le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où ça en est pour toi dans l'EHPAD depuis l'arrivée du coronavirus? Ah, tu avais une...
Ouais, non, juste qu'on peut peut-être repréciser quand même, c'est que Delphine, toi, t'es déléguée syndicale. Ah. Et ce que tu peux peut-être donner, c'est le cadre, enfin, de l'EHPAD. Est-ce que c'est une EHPAD privée? Est-ce que c'est une EHPAD public. Enfin voilà, juste redonner le cadre et après, on est là pour écouter ton.
Alors non, pour repréciser, nous c'est mutualiste, donc une partie publique, c'est-à-dire les soignants, on est payé par l'ARS, et une partie privée de la mutualité. Donc voilà, en fait, on est un peu semi, c'est un peu compliqué. Voilà. Et oui.
ARS, agence régionale
de santé.
Voilà. Non, c'était, voilà. Pour les non-initiés.
Non, mais il n'y a pas de souci. Non, c'est des fois, on parle sans réfléchir. Mais bien sûr, c'est ça, exactement.
Non, je ne doutais pas de ta réflexion, mais
là n'est pas le sujet. Et donc, tu disais semi-privé ou semi-public. Un peu.
Voilà, un peu comme t'as envie de le sentir. Enfin, à la base, mutualité, ils étaient plus côté public. Puis, je sais pas, il y a depuis quelques années, c'est vire plutôt vers le privé, on va dire.
C'est quasiment un partenariat public-privé, quoi, en fait.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Exactement.
Et donc, toi, tu fais partie de ce personnel. Donc, on commence à parler à nouveau, parce oui. que les EHPAD, d'un coup, on s'est rendu compte que, c'était des milieux qui pouvaient être très touchés, confinés, etc. Et, qu'est-ce que toi, t'as à nous dire de retour du terrain? Enfin, comment que ça se passe, quoi?
Bah, c'est très dur. Très, très dur. Moi, j'ai de la chance quand même dans une EHPAD où, pour le moment, on n'en a pas. On n'a pas de cas. Donc c'est quelque chose où voilà, c'est quand même un soulagement par rapport à d'autres collègues que je sais qui eux en ont. Pourquoi on en a pas? Ben on se dit tous que c'est de la chance parce que c'est pas par les moyens qu'on nous donne. Parce que voilà, on est comme tout le monde, hein. Les masques c'est au compte-gouttes, qui sont nominatifs, hein. On en a un par jour. Les surblouses, faut pas compter qu'on en ait un chacun. Donc, quand on a une suspicion, c'est une blouse qui doit faire 24 heures. Donc, c'est-à-dire que ma blouse va servir aussi à mes collègues de nuit. Donc, sachant que le Covid se transmet quand même par la transpiration, faut voilà vous dire qu'on se protège pas entre nous-mêmes. Donc, on n'est même pas capable de savoir si on est porteuse ou pas. Donc, en fait, on peut faire un effet boule de neige à tout instant. Et après vous dire qu'on se fait engueuler parce qu'on utilise trop de gants et se faire engueuler parce qu'on utilise trop de gel hydroalcoolique, qu'on fait encore pas assez, alors que je me retrouve confinée dans une aile, on est deux dans l'aile, il y a 18 résidents dans cette aile, mais 18 résidents qui ont plus le droit de sortir de leur chambre, donc l'état psychologique est très dur pour eux. Des personnes qui peuvent plus contacter leur famille sauf via par notre part, donc faut trouver le temps aussi. Il faut que plus personne n'ait le droit de rentrer, donc les soignants sont transformés aussi à faire agent de service. On distribue les repas, on aide l'infirmière parce qu'elle n'a pas le droit d'aller de partout, donc distribution des médicaments. On se retrouve aussi à faire distribution du linge, à désinfecter tous nos faits et gestes, portes, poignées, tout ce qu'on touche. Hein. Du moment qu'on rentre dans une chambre, le protocole est complètement changé parce que on met les barrières de partout. Comme on peut, bien sûr. Après, vous dire qu'on a normalement, on devrait avoir au moins un tablier pour mettre une distance d'hygiène. Sauf qu'on a un tablier pour tous. Donc, où est l'hygiène, j'en sais rien.
On va rappeler quand même que tu es aide-soignante, parce que quand même
oui.
que les gens.
Oui, je suis aide-soignante, pardon.
Tu te souviens de ton métier. Et c'est quoi que tu appelles un tablier?
Alors, c'est le tablier en plastique, là. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un vulgaire tablier en plastique qu'on nous fournit. À la base, c'est quelque chose qu'on devrait avoir. Ça fait partie des revendications que j'avais déjà fait en 2018. Ça serait un matériel qu'on devrait avoir juste pour avoir une hygiène. C'est-à-dire que quand je fais une toilette à une personne âgée, peut y avoir plein de choses qui peuvent se passer dans cette chambre. À la base, on devrait avoir un tablier par patient. Mais déjà, en 2018, c'est quelque chose qu'on demandait que nous n'avions pas. Donc, nous, quand on a une épidémie gastro ou quoi, comment elle se propage? Elle se propage facilement parce que j'ai rien pour me protéger de ma tenue, mais je fais toutes les chambres avec la même tenue toute ma journée. Donc, forcément, je transporte mon microbe de partout, mon virus ou quoi. Donc, c'est des choses que nous, on demande depuis longtemps. Les masques, c'est pareil. Quand on a des épidémies, un peu chance entre guillemets, on peut pas dire grippe parce que nous, on se vaccine. Mais quand t'es ancien, tu te chopes des dérivés, quoi. Et c'est pareil, on n'a jamais rien, on n'a jamais de masque. Et c'est quelque chose que, on est en colère parce que ça fait des années que nous, on le dit. On dit que les EHPAD sont mises de côté, qu'ils servent juste pour le vote et que le reste du temps, on nous écoute pas, quoi, et puis on s'en fout. Sauf que nos anciens, faut en prendre soin et que, si on va applaudir, on nous a mis une fille de plus. Pendant un confinement, une fille de plus, vous dire que c'est rien, quoi, pour nous, quoi. Enfin, c'est du pipi de chat, excusez-moi du terme, mais ça nous sauve en rien. parce qu'on a plus de boulot que d'habitude, donc.
Donc on peut, enfin donc en fait, enfin ce qui est toujours la, j'ai l'impression ce qui est toujours la tendance, c'est que leur logique économiste et capitaliste, on va l'appeler comme ça parce que c'est
exactement
ça,
exactement.
Elle ne fait que perdurer et limite elle s'amplifie parce que même là, en cas quand même, enfin on est quand même dans quelque chose, il faut faire de la prévention à fond, faut essayer de limiter à fond les risques. Même là, ils ont une logique économique de vous bouffez trop de gel, de gants, machin, et vous avez même pas de blouse, quoi.
C'est ça. C'est ça. Alors, il y a le tout. Alors, il y a le côté où mon entreprise, bah, ils voient leurs sous partir. Après, il y a aussi le côté que mon entreprise, ben, grâce au capitalisme français, parce que là, on va pas parler que de mon EHPAD, mais c'est le capitalisme français qui a fait qu'il a tout réduit, pensant que ça servait à rien, parce que la santé, à quoi ça sert dans le capitalisme? Bah, là, peut-être qu'ils vont, tout le monde va se rendre compte que sans santé, ben, il y a rien du tout. Et que si, je soutiens tous mes collègues depuis toujours, que ce soit urgentiste, que ce soit dans les EHPAD, que ce soit dans les hôpitaux, qui gueulent depuis des années, quand on est là à gueuler, à dire qu'on veut du matériel et des ouvertures de lits, qu'on fait passer nos salaires après, alors qu'on est payé comme à coup de lance-pierre depuis très très longtemps. Petit rappel, moi, mon entreprise, ça fait plus de 10 ans que je suis gelée, hein, d'accord ? Donc, imaginez que moi, j'ai rattrapé le SMIC depuis. Voilà, c'est même pas notre priorité. Je reprends parce que tout à l'heure, Fabien a parlé de l'applaudissement. Alors oui, c'est gentil. C'est vrai que d'un côté, bah, ça fait un peu chaud au cœur quand tu trimes toute ta journée. Tu te dis, putain, il y a quelqu'un qui pense à moi. Mais derrière, en fait, tout de suite, on se dit, mais les gars... On venait avec nous dans la rue. Ça fait des années qu'on est dehors pour vous. On n'est même pas dehors pour nous, on est dehors pour vous et il n'y a jamais personne. Et là, j'espère que les gens vont se réveiller. S'il n'y a pas de santé, il n'y a pas de pays. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Parce que le capitalisme nous a tout enlevé. Et moi, je reste persuadée qu'on n'en serait pas là aujourd'hui si on avait donné les moyens, si on avait les moyens de payer des tests, parce que ça ne me fera pas penser autre chose, c'est une question de fric. Si on avait les moyens, on aurait eu les masques, le matériel dès le départ. Plein d'EHPAD auraient été épargnés parce que les filles, elles auraient eu tout ce qu'il fallait pour pouvoir avoir mettre les barrières de sécurité. Parce que malheureusement, ce virus, on peut être porteur sain et que nous, on n'en sait rien. Et qu'on est tous dans des familles où, oui, on essaye au maximum. Mais que moi, quand mon patron me dit « tu sors pas de chez toi », oui, ben mon mari aussi travaille aussi un peu, donc les courses on fait comment? J'ai 4 enfants, enfin on est obligé, même si on essaye de faire toutes les barrières qu'on peut. Voilà, moi je suis divorcée, donc j'ai 2 grands qui vont dans une autre famille quand ils vont chez leur père, donc je peux pas dire que j'ai un foyer sain, c'est impossible. Et moi je vais au boulot en me disant que ça se trouve je contaminerai quelqu'un et parce que j'ai même pas les moyens pour quoi, ne pas contaminer.
Oui, c'est ça, mais parce que c'est la logique qu'il y a derrière, c'est-à-dire il faut que toi tu limites ton champ d'action. Parce que eux n'ont absolument aucun moyen pour vous, quoi.
C'est ça.
Parce que vous avez un masque par jour. Enfin, il y a quand même quelque chose qui est un masque par jour. Enfin, il y a quand même quelque chose d'hallucinant, quoi.
Et une surblouse. Mais là, on est quand, imaginez, là, nous, je vous parle de suspicion. Mais moi, je vais vous parler la maison de retraite des Tulipiers de Vénissieux. Elles sont toutes au bout du rouleau. Elles culpabilisent alors que ce n'est pas de leur faute. Et je tiens bien à ce qu'elles, s'il y en a qui l'entendent, ce ne sont pas de leur faute. Elles n'avaient pas le matériel pour mettre les barrières de sécurité. Donc oui, forcément, le virus, il s'est propagé parce qu'on sait très bien qu'il est hyper rapide. Donc si on n'a pas le matos, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? C'est impossible.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans ce que tu décris, on se rend compte que finalement ton patron vous met toujours sur les épaules la responsabilité en permanence. Il se dédouane toujours. C'est-à-dire, vous n'avez pas de moyens, mais en même temps, c'est à vous de faire attention quand vous êtes chez vous. C'est à vous de faire attention quand vous vous occupez des résidents. Et en gros, c'est quand même un peu surréaliste parce que, comme tu le disais, c'est pas être une personne de plus sans moyens, avec des pertes gants comptées, du gel de l'hydroalcoolique, que vous allez pouvoir faire ce qu'il faut. Comment vous le vivez, vous, en tant que, salarié? Est-ce qu'à un moment donné, vous le vivez, enfin, ça vous met pas une pression en plus, qui, du coup, bah, peut vous faire craquer quand même, parce que faut pas
non plus. Non, mais j'ai eu plusieurs collègues, moi, qui m'ont appelé, qui pleurent. Moi, je fais partie quand même, je tiens à dire, je fais partie du groupe hospitalier, étant délégué du personnel, et qu'on a un CSE en centrale, donc je suis en relation aussi avec les portes du Sud. Les salariés, elles craquent. Parce qu'elles, elles ont des Covid. Et que c'est pareil. On a fait des appels aux dons. J'ai fait des appels aux dons sur Faisin pour mes collègues de Vénissieux, enfin de l'hôpital. Enfin, il y a un moment, c'est pas normal.
On fait de l'appel aux dons et les bourgeois nous donnent quelques millions, quoi.
Non, mais
il y a quelque chose, je pense. Enfin, les gens, il va falloir qu'on interroge plus profondément, quoi.
Pourquoi, sérieux, les riches, ils ont bougé leur popotin là pour ce putnaise. Excusez-moi, mais Notre-Dame, moi, j'en ai rien à fiche parce que ça sauve pas d'humains, d'accord? Hein, on peut mettre des mignons et là, il y a personne qui peut bouger son popotin là un peu. Alors moi, je parle de sauver des vies. Hein. À un moment donné, faut être réaliste, quoi.
Si, il y a Florent Pagny, le mec qui voulait pas payer d'impôts en France, qui veut faire des millions avec un disque.
Ouais, non, mais.
Ça aussi, ça devrait nous interroger vachement, finalement, ça.
Non, mais c'est horrible d'arriver à tirer du profit de ça. Mais si on est dans un pays que moi, j'arrive pas à comprendre, quoi. Franchement.
Mais moi, je trouve qu'on s'américanise, finalement.
Ouais, mais vous avez vu comment c'est en Amérique, là?
Je pense
non, mais il faut que les gens se réveillent. Vous avez vu ce qui se passe?
Je pense que nous, on en est conscient, mais effectivement, c'est.
Nous, en France, c'est parce qu'il y a encore des soignants comme nous qui se battons. Hein. Mais demain, si on baisse tous les bras, on sera comme eux. Hein. Mmh. Ce sera fini. Et, enfin, je ne sais pas, moi, je ne peux pas comprendre.
On est là, enfin, on va le dire, on enregistre ça, on est jeudi 9 avril. On annonce ce soir, là, on a eu les chiffres, 2400 morts dans les EHPAD, a priori, en France. Pour toi, en fait, est-ce que tu penses sincèrement, comme ça, comme tu disais, le manque de moyens, que ça risque d'être vraiment, comme certaines personnes le disent, une hécatombe, quoi. C'est-à-dire qu'on va perdre une personne sur 5, une personne sur 4.
Ouais, et puis on se réveillera après, comme après la canicule, c'est ça. On va se réveiller après, parce qu'on sera obligé de faire quelque chose, parce que là, il y en aura eu tellement. Mais c'est horrible. Non, mais oui, il va y en avoir plein. Il y en aura encore plus. Parce que oui, on est affaibli quand on vieillit, mais on va tous vieillir et on peut tous finir en maison de retraite. Et ben franchement, je souhaite à tous ces gens qui en ont rien à foutre de tous nos petits papis, nos petites mamies, hein, qui finissent dans un coin tout seuls, parce que c'est ce qui se passe là. Parce que nos petits papis, mamies, ils finissent tout seuls s'ils ont le Covid. Il y a personne qui les accompagne parce qu'on ne peut pas, parce qu'on n'a pas les moyens de pouvoir rentrer plusieurs fois dans la chambre. Vous vous rendez compte quand même que je suis en train de vous dire que j'ai pas de matériel, que demain, si j'ai des Covid chez moi, il y aura une restriction pour rentrer dans la chambre parce que j'ai pas de matos. Nous, on a une étude. Enfin, après, chaque maison de retraite fait comme elle le sent. Nous, dans la mienne de maison de retraite, quand on a une fin de vie, on sait qu'une personne, c'est ses dernières heures ou ses derniers jours, il y a toujours une collègue qui se détache. On fait son boulot et la collègue, elle se détache et elle est auprès du patient au maximum de sa journée pour pas qu'il parte tout seul. Parce que oui, on le sait, oui, il faut le savoir quand même qu'on a beaucoup de personnes âgées qui sont seules, hein, qui sont pas tous entourées de famille. Et là, je me dis que, enfin, imaginez-nous, c'est dur pour nous. Nous dire que des gens que je connais depuis des années, ça se trouve, je vais devoir les laisser mourir tout seuls.
Alors, en fait, ce que tu essayes de décrire, c'est qu'on est en 2020, mais finalement, on pratique la même chose qu'au Moyen-Âge, quand les gens avaient la peste, on les enfermait dans une pièce.
C'est ça.
Et on apprenait qu'ils meurent, quoi. Ou s'ils mouraient pas, tant mieux, c'est que c'était un peu miraculeux. Bah, en fait, on fait ça, quoi.
On fait ça. C'est exactement ce qui se passe. Et c'est pareil pour les hôpitaux, hein. Faut pas se leurrer, hein. Les gens, ils meurent tout seuls, hein. Parce que c'est pareil, elles ont tellement de boulot que les gens les laissent mourir tout seuls. Mmh. Et oui. Et c'est quand même pas normal qu'en 2020, on soit comme à l'époque de la peste, quoi.
Non, mais clairement, ouais. Ouais. Je me souviens que quand t'étais passé dans l'émission, tu disais que le premier manque qu'il y avait, c'était finalement du personnel, quoi. C'est-à-dire que la première chose, c'était le rapport à l'humain. Donc là, tu nous dis, on a mis une personne de plus. Bon, bah, voilà, comme tu disais, c'est que dalle parce que vous avez besoin de beaucoup plus que ça. Mais, pour toi, combien de personnes il faudrait par résident à peu près? C'est-à-dire pour que vous puissiez faire un métier
un vrai métier ouais. De soignant en EHPAD. C'est pas plus de 5 patients pour une fille, pas plus.
Et là,
tu veux faire vraiment quelque chose de profond.
Et là, tu disais, t'es à combien?
Bah là, vu qu'on est une de plus, ça m'en fait un petit peu moins. Et ben, tu fais, j'en ai 9.
Ouais, 9 en période d'épidémie, hein, quand même.
Non, mais là, on est en 9 en Covid, c'est-à-dire 9 personnes fermées ou qui ne sortent pas du tout de leur chambre de 7 mètres carrés. Hein. Faut vous dire, quand il y en a que des jeunes qui se plaignent, qui sont chez eux avec leur télé, leur machin, leur truc, parce qu'il ne faut pas déconner, on n'est pas non plus en temps de guerre, hein. On a l'eau, on a à manger. Ben moi, mes petits papis, mamies, ils ont des plateaux repas qui arrivent froids parce que nos chariots, ils ne sont pas chauffés. Parce que bien sûr, on n'en a pas, donc c'est de la récupération qui ne marche plus. Donc ils mangent froid dans leur petite chambre tout seul. Ils voient personne. J'ai plein de résidents qui ont même pas de télé, donc ils voient leur mur toute la journée. Voilà, c'est la vie qu'ils ont au quotidien là depuis plus de 15 jours. Voilà, c'est et ça fait ça fait 15 jours qu'ils sont confinés dans les chambres et ça va faire bientôt un mois qu'ils voient personne à part nous. Ils ont même plus de il y a plus les bénévoles, il y a plus les familles, il y a plus les kinés. Enfin voilà, ça faisait brasser quand même dans la maison, ça faisait du monde à voir, ils ont plus rien. Voilà. Ils ont que nous. qui nous voient avec des masques et qui ça leur fait de la peine, parce qu'ils n'arrivent même pas à voir si on sourit, si on sourit pas, si on est énervé, pas énervé. Ils sont toujours en train de me demander si je souris là. Je leur dis que je souris toujours, moi.
Et je confirme, c'est vrai. Donc, on le voit à l'écran. Mais du coup, en fait, il y a des questions comme ça qui me viennent, mais elles peuvent paraître secondaires. Mais par exemple, ta direction, elle s'est pas dit, bon, tu disais, il y en a qui ont pas la télé, par exemple, elle s'est pas dit, on pourrait améliorer le cadre de vie en ajoutant des choses qui, parce que je suppose que la télé est payante, donc c'est pour ça qu'ils l'ont pas.
Ah, mais excuse-moi, mais en fait, c'est que moi, j'ai commencé à l'ouverture de cette maison, donc je peux tout vous dire. Hein, l'ouverture de cette maison, c'est tout. Ils avaient des petits frigos dans leur chambre et ils avaient des télés.
D'accord.
Et en fait, maintenant, eh ben, vu que c'était vieux, que ça a plus de 20 ans, que c'est mort, après, ben, faut comprendre que ça coûte des sous. Alors, soit les familles achètent, soit ils ont pas. Ouais. Mais ceux qui ont pas de famille, bah, voilà, quoi.
Bah, ils ont rien, en fait, quoi.
Bah, ils ont rien, à moins que leur tutelle accepte d'aller chercher une télé. Mais voilà, c'est, non, faut pas croire, hein, ça marche pas. Les tutelles, c'est pas si bien. Il y en a qui peuvent être bien, il y en a, voilà.
Mais parce que en fait, enfin, moi je me rappelle, tu disais que tu travaillais dans une maison de retraite finalement où finissent les gens qui ont très peu de moyens globalement.
Ah oui, moi je suis une maison de retraite d'ouvriers à la base. Ouais. Ouais.
Et donc on voit que là, finalement la double peine qu'ils ont vécue toute leur vie, elle se reflète encore une fois au moment de la vieillesse, quoi.
Mais il faut pas se leurrer, les gars. Si vous avez de l'argent, vous pourrez avoir une super maison de retraite. Ouais, excusez-moi, je m'emballe un peu dans mes façons de parler, peut-être, mais...
Non, c'est très bien. Sois toi-même. Hein.
Mais c'est une vérité. Moi, c'est pareil. Exemple, sur TF1, j'ai vu un reportage sur TF1 d'une maison de retraite. Excusez-moi, la maison de retraite, elle doit être à 4000 euros, mais les gens qui étaient dedans ne sont pas la même chose que moi, ce que j'ai. Donc forcément, il était là à dire, oui, moi, j'ai les moyens, on a prévu une salle avec des prises. Mais filmez pas les à peine 10% de la France. Filmez la réalité. La réalité, elle est que la plupart des maisons de retraite, il n'y a pas de moyens. Et moi, je vous dis, je suis un secteur ouvrier, donc on tire vers le bas pour la pension, parce que les gens ne peuvent pas payer ou sinon. Mais il n'y a rien. On n'a pas de budget, on n'a pas d'avance, on n'a pas la maison de retraite n'a pas d'âge. On est en dividende tout le temps. On peut pas se dire, on peut mettre de côté ci ou ça. C'est pas possible. Il y a rien.
En fait, notre classe sociale nous colloque jusqu'à le dernier jour.
Bah, c'est ça. Jusqu'à ce que tu décides. Enfin, que ton corps décide de partir. Ouais, et puis, tu partiras pareil dans une boîte en carton parce que ça coûte moins cher aussi. Puis, c'est pas polluant. Au moins, nous, on n'est pas polluant.
Non, mais je trouve que c'est... Non, mais à l'heure où on veut toujours effacer quand même cette notion de lutte sociale, de classe sociale, en fait, ça nous éclate tout le temps devant la gueule et encore plus dans ces moments-là. C'est que oui, en fait, les précaires le seront encore plus, les exclus le sont encore plus.
C'est ça.
Et je pense que les petits vieux et les petites vieilles, il y a rien de péjoratif dans cette appellation, bah c'est pareil quoi. S'ils sont bourges au départ, bah on s'occupera d'eux bien comme il faut quoi. Mais si t'as trimé toute ta vie pour un SMIC, eh ben t'auras le droit au mépris institutionnel hein, quand même.
Ouais, institutionnel, c'est sûr. Non, mais c'est ce qui se passe. Et on le voit bien. Hein. Nous, enfin moi, je peux vous dire, ma directrice, elle est directrice de deux maisons de retraite. Donc il y a la nôtre et la Vigie au Mont d'Or.
Ah, ça doit pas être pareil.
Voilà, je vous laisse comprendre. La Vigie au Mont d'Or, ils ont tout.
Pour resituer pour les non lyonnais et non lyonnaises, renseignez-vous sur les Monts d'Or. Vous voyez, ça porte déjà le nom, quoi. Mont d'Or. Vous voyez, il y a un truc où on sent qu'il y a du pognon. Et voilà. Enfin, c'était juste un petit éclairage socio-économique.
Sachant que nous, dans les choses qu'on a, c'est des choses qu'elle a pris de la Vigie pour nous.
Ouais, c'est-à-dire que s'il y avait
en
pas.
En fait, elle a pris des choses de la Vigie au Mont d'Or pour ramener à la Solidage de Vénissieux. C'est pour dire à quel point nous, on n'avait rien.
Ouais, c'est du troc, quoi.
C'est ça. Et nous aussi, on a troqué. Nous, on avait des masques FFP2 périmés. Bien sûr, hein, c'était périmé, hein, faut pas se leurrer. Hein. Et ben nous aussi, on a troqué pour avoir plus de chirurgicaux.
Et vous avez troqué avec l'hôpital à côté?
Pas avec les portes du Sud, avec... voilà, tu vois, tu me poses la question à chaque fois, j'arrive plus à me rappeler. Celui qui... Ils ont regroupé Saint-Priest, Médipôle.
Ouais.
Voilà, nous, on a troqué avec Médipôle. C'est une vérité.
Ouais, mais c'est ça qui est hallucinant. Je pense que ce qu'il faut que les gens comprennent et qu'on a du mal à voir, c'est ce que tu disais, c'est que on a tendance dans les médias un peu grand public d'aller filmer finalement ce qui fonctionne le mieux. Et les gens se disent, bah finalement c'est pas si grave que ça. Pourquoi les soignants nous emmerdent? Parce qu'il y a un peu de ça. Hein. Je fais un grand big up à Michel Simès qui allait dire que dans son service tout allait bien et qui comprenait pas pourquoi les gens s'affolaient. Lui, un jour, il faudra lui mettre une paire de baffes. voilà. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quand même une volonté de laisser croire que ça va. Et en fait, quand on parle avec des gens comme toi, on se rend compte que ça va pas parce que le nombre de témoignages qui peuvent ressortir aujourd'hui, on en a lu un dans la dernière émission d'ailleurs. En fait, on se rend compte que il y a un réel problème et que le problème, en fait, il est connu, comme tu disais, depuis des années, quoi. C'est-à-dire que vous saviez très bien où on allait. Et que là, on est face vraiment à ce que tu dénonçais il y a presque 2 ans, quand tu nous disais, mais en fait, un jour, on va avoir une catastrophe et ils vont mourir, on pourra rien faire.
Ben, c'est ça.
Et là, on est face à ce problème-là, quoi. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que tu penses sincèrement, toi, là, comme ça, que demain, ce sera mieux? C'est-à-dire que les gens vont réagir ou pas?
En fait, c'est que je me dis que si je reste pas optimiste, à quoi ça sert que je sois là, et à quoi ça sert que je sois déléguée, à quoi ça sert, si je suis encore là et que je fais tout ça, c'est que je me dis que si on va y arriver, on va se battre, faut continuer, quoi. Après, moi, le message que j'ai à dire, c'est bien sûr, c'est gentil, tout le monde nous applaudit. Par contre, demain, vous êtes tous dehors avec nous, quoi. Covid fini, tout le monde dans la rue. Parce que moi, je tiens juste à rappeler quand même que tous ceux qui sont dans les hôpitaux, j'ai beaucoup de collègues et amis à moi qui ont manifesté, qui se sont fait gazer. J'ai des gens qui se sont retrouvés quand même avec des ITT par les flics. Pas oublier, ces gens-là, ils étaient juste dans la rue pour vous sauver la vie. Et ce serait bien que la France entière l'entende vraiment. Donc voilà, j'aimerais bien faire ce rappel parce que moi, en EHPAD, on est toujours un peu mis de côté. Mais parce que les gens, ils n'arrivent pas à se dire un jour je serai vieux. Par contre, j'arriverai jamais à comprendre que les gens aient juste regardé les infos pendant des années sur toutes ces personnes qui étaient aux urgences, qui étaient en grève. Bah oui, grève douce parce qu'on travaille quand même. Hein, excusez-nous, mais on continue quand même à sauver des vies. Et moi j'ai beaucoup de peine pour toutes ces personnes. Parce que c'est fait longtemps qu'ils vivent mal dans leur foyer aussi, parce que d'aller travailler dans des conditions comme on travaille depuis un moment, c'est dur, et que là c'est encore pire. Et j'espère que demain, oui, tout le monde va se bouger, va se réveiller. Ouais, j'ai espoir. Il faut.
Mais oui, il faut. Non, mais c'est.
J'ai une autre question parce que on se voit aussi en faisant cette je pense que vous êtes tiraillé, toi comme sûrement toutes les autres, par il faut qu'on soit là parce que on peut pas laisser les gens crever, c'est pas possible, on peut pas les laisser, même sans y parler de crever, mais on peut pas les laisser seuls, et un ras-le-bol, je me dis dans quelle étape, alors peut-être que tu peux aussi dire j'ai pas envie d'y répondre ou j'ai pas la réponse. Mais dans quelle étape si vous êtes, et est-ce que vous allez avoir de l'aide pour ça, quoi? Parce que vraiment, j'ai pu voir une psy qui bosse dans un hôpital, et elle m'a dit, ça va être une hécatombe, quoi. Et est-ce que cette facette-là, est-ce que vous en parlez entre vous? Est-ce que vous élaborez des pistes pour essayer que vous ayez des soupapes, quoi? Parce que,
Moi, j'ai transmis. Alors, très franchement, je pense que là, on est dans le dur. Tant que t'es dans le dur, tu réfléchis pas, en fait. Je pense que c'est comme tout le monde. C'est après, là, dans le dur, faut pas se leurrer. C'est pas le salaire qui fait faire le métier. Hein. Donc, toutes les infirmières, les aides-soignantes, les ASH, les agentes techniques, ce que tu veux. Je vais te dire, même pour moi, les urgentistes, parce que franchement, ils sont pas tant bien payés que ça, je trouve, par rapport à ce qu'ils font. Moi, je trouve tout le corps de métier, surtout dans le public. Hein, on est bien d'accord, je reprécise. Hein, je parle, on va pas parler des gens qui ont leur petit cabinet tranquille. Voilà, je pense que vraiment, c'est des gens, c'est leur vocation. Et on fait ce métier parce qu'on l'aime. Moi, j'ai pas fait ce métier pour l'argent. C'est vraiment parce que on est des gens, on aime notre métier. Donc là, on est dans le dur. Bien sûr qu'on va tous se dire, on va pas laisser mourir les gens. Bien sûr qu'on y va. Par contre, après, je pense que oui, il y a beaucoup de gens qui vont mal le vivre. Parce que moi, encore, j'ai de la chance. Mais moi, il y a plein de gens qui vivent des décès. Faut relativiser qu'une fois, deux fois, mais quand t'en vis plein, forcément, tu te remets en question quand tu sais que parce que t'as pas eu les barrières derrière, va falloir. Après, faut avoir des bons psys. Parce que moi, je vais vous parler personnellement de celle de mon boulot. Je lui dirai rien du tout. C'est les gens pro direction qui vont voir la direction toutes les deux minutes en disant je trouve que Madame Attel était mal installée, hein. Et puis elle devrait faire ci aussi, puis faire ça. Non, je vais pas aller voir une psy qui ose faire ça alors que nous, on est en train de trimer. Mais par contre, je sais qu'il y en a des très bien aussi, et je pense que oui, va falloir. Après, moi, personnellement aussi, j'ai une amie qui est sophrologue, qui propose plein de séances gratuites pour tous les soignants. Donc c'est vrai que moi, j'ai transféré pour tout l'entourage, tous les gens que je connais autour de moi, parce que c'est bien aussi la sophrologie pour pouvoir relativiser et puis arriver à gérer tes émotions. Ça va être par des biais, par tout ça, quoi. Et puis la communication entre nous, c'est important. C'est très, très important. Moi, je sais qu'autour de moi, on s'appelle beaucoup. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, on s'appelle. On se dit, Et puis même des fois, moi, on m'a dit, je crois que j'ai fait mal. Non, après, on est là pour se rassurer aussi mutuellement et se dire que non, on fait comme on peut aussi et qu'il n'y a ni bien ni pas bien. On fait, quoi. Non, je pense que oui, c'est le après va être compliqué. Donc, c'est bien mignon quand on nous dit, on nous donnera quelque chose. Mais l'argent ne fera pas tout, en fait. C'est surtout aussi comment on nous fera travailler derrière. Et est-ce qu'on sera vraiment pris en considération, c'est ce qui est important.
Mais on voit, c'est ce que tu disais déjà il y a 2 ans, hein, c'est que le salaire, c'est une part, c'est une chose, mais le manque de moyens, ça se compense pas par le fait de donner une prime.
Non.
Et que là, on voit que le premier réflexe qu'a eu le gouvernement, une fois de plus, c'est de dire, oh bah elles se plaignent ou ils se plaignent, enfin majoritairement elles, parce que c'est un métier plutôt féminin, mais du coup, on va leur faire une petite prime en sortant, ça va bien se passer. Mais en fait, ils se rendent pas compte que, enfin, vous palliez à tous les manquements de ces 20 dernières années, quoi, en fait.
C'est ça. Non, mais voilà. Et puis, comme tu dis, ça fera pas tout. Puis, quand on parle, je fais préciser, parce qu'on est en train de dire les soignants. Moi, les agentoliers, pour moi, je les mets au niveau que je suis. Les ASH dans le public, c'est pareil. Hein. Elles sont aussi proches que nous du Covid. Si on les a pas, c'est tout un maillon. Hein. Je les ai pas, elles m'ont pas. Enfin, on peut pas vivre. Donc c'est vraiment tout le monde. Et encore ces histoires, pour moi, c'est du blabla parce que j'y crois pas. Ça prime en plus parce qu'ils vont trouver du biais derrière de qui a combien travaillé. Ça va être au nombre d'heures de toi, t'as fait combien et toi t'étais à combien. Ah ouais, mais toi t'es KSH, donc toi t'as pas la même chose que moi parce que t'as pas la même chose. Et je sais très bien que c'est ce qui va se passer. Et on va encore mettre une différence, essayer encore une fois d'essayer de mettre une différence entre les salariés. Et ça, c'est non, parce que là, on vit tous la même chose. Du médecin passant par l'infirmière, l'aide-soignante, l'ASH, l'agent technique, on est tous au même niveau là. Donc pour moi, c'est à tout le monde et à tout le monde donner des moyens. Mais ça, c'est l'utopie encore.
Bah, c'est surtout qu'il va falloir qu'on les cherche, les moyens, et qu'on n'attende pas qu'on nous les donne, je pense. Mais ça rejoint ton appel à être dans la rue après ce confinement, quoi. Et je ne peux qu'espérer, même si l'espoir, ça ne fait pas tout, mais qu'on soit effectivement, mais des millions, quoi. Il faut qu'on soit absolument des millions pour.
Oui, non, mais là, il va falloir que les gens, j'espère, vont se réveiller. Parce que, moi, là, je vais pas le dire, mais moi, là, j'ai quand même une super collègue et, on sait pas si elle s'en sortira ou pas. 15 ans que je bosse avec elle, là, elle était en AT, donc, bien sûr, la direction nous rassure en disant, elle était pas dans la maison, mais je m'en fiche. Moi, je m'en fiche. On peut pas avoir de nouvelles, la HEH, voilà. Et je pense que beaucoup de monde peut être touché par des personnes proches ou un peu moins proches, et on perd beaucoup de personnes. Faut savoir que les gens se réveillent, parce que même si tu t'en sors pas si facilement que ça. Derrière, on sait même pas si vraiment on récupérera nos poumons, si tout ira bien après. Donc, c'est pas de la rigolade. Et voilà, je continue à dire, sans santé, il y a rien. Et que là, en France, pour moi, on n'a pas pris assez de mesures. Moi, dernier truc que j'aurais à demander, c'est où sont ces masques?
Où ils sont?
Monsieur Macron, où sont ces masques? Où est parti le fric? C'est de l'argent public. Où il est parti? Moi, c'est un truc que j'ai besoin de savoir. Parce que j'aimerais aussi que les Français se réveillent. C'est notre argent. C'est notre santé, c'est notre argent qui a été mis en l'air là. Et donc, on est en train de tous pâtir d'un truc qui, à la base, on nous a pris notre argent. On nous a volé. Donc, moi, j'aurais besoin de réponse là-dessus, quand même.
Dans ce que tu dis, on peut quand même rappeler que le fameux jour qu'on a supprimé, qui était avant un jour férié, qui est maintenant un jour travaillé, qui devait servir justement à ça. C'est-à-dire qu'au départ, il devait servir à vous équiper, vous, ce que tu disais déjà il y a 2 ans, pour permettre d'éviter ce genre de truc-là. Et en fait, on se rend compte que l'argent n'est jamais arrivé. Enfin, pas l'argent, mais les moyens ne sont jamais...
Les moyens qu'ils ont été mis pour la Pentecôte, que l'argent devait être pour la gériatrie, je le cherche. Enfin, moi, en EHPAD, j'ai jamais rien vu. Je suis en train de dire qu'il n'y a pas d'argent, quoi. Même pour avoir des clims, faut que je m'en dis. Hein. Excusez-moi, mais c'est quand même moi, un CSE, qui m'en dit des clims pour mes patients. Enfin, à un moment donné, c'est quand même le rôle d'un patron de se dire « j'ai une EHPAD, faut pas qu'il soit dans le chaud ». Enfin, je sais pas, c'est logique. Mais on en est là. C'est les salariés, on se bat pour nos résidents.
Sauf si avec beaucoup de cynisme, tes grands patrons se disent « ça fait rentrer des gens en plus parce que les gens meurent ».
Ouais, aussi, peut-être. Ouais, mais ça peut pas être la mienne de politique, c'est pas possible.
Ah non, mais je dis pas que ça pour toi, je parle de ceux qui dirigent les EHPAD. C'est que je pense qu'eux, ils sont dans le comptable pur. C'est-à-dire qu'ils se disent « bon, bah, ça réduit peut-être de 2 mois la vie de quelqu'un. Bon, c'est pas bien grave, allez, on passe à autre chose, quoi. »
Ah oui. Voilà. Bah, de toute façon, ils savent très bien les maisons de retraite. Nous, on a 2 ans d'attente. Donc, ils savent très bien que les chambres, elles sont remplies. Hein. Mmh. Je veux dire, ils peuvent partir, ils s'en fichent, ils auront l'argent. Hein. C'est pas une question de remplir. Hein. Ça, ils rempliront toujours.
Et en même temps, je rappelle quand même, parce que c'est un souvenir que j'ai, c'est que quand on t'avait interviewé il y a 2 ans, donc bien avant le confinement, ces mêmes directions de d'EHPAD, etc., se satisfaisaient déjà d'une douche par semaine, par personne.
Oui, oui, bah on en est toujours là.
Hein. Ouais, non, mais justement.
Les choses changent pas là-dessus.
C'est que oui, c'est que la situation est dégueulasse depuis très longtemps et que effectivement, il va falloir plus que juste applaudir au balcon pour faire changer tout ça, quoi.
C'est ça.
Et se réapproprier nos vies et tout ça, quoi.
Exactement.
Eh ben, on arrive au terme de l'interview. Est-ce que tu as un dernier message, quelque chose à passer, mais peut-être même, voilà, même peut-être, enfin, ce que tu as envie de passer aux gens qui t'écoutent et qui t'entendent, voilà.
Non, bah, je crois que j'ai tout dit, hein. J'ai dit dehors, tous dehors après, hein. Tous dehors pour sauver vos santé et vos vies, quoi. Enfin, voilà, il faut penser qu'on peut pas s'en sortir sans santé et que c'est ce qui se passe là. Sans moyens, tu t'en sors pas.
Et d'ici là, restez chez vous, c'est ça?
Ah oui, par contre, s'il vous plaît, ouais. Non, s'il vous plaît, parce que, non, ouais, non, franchement, le relâchement, là, non, il est fatigant. Sérieux, les gars, enfin, je sais pas, non, relâchez pas, je vais prendre des risques comme ça, c'est inutile. J'arrive pas à comprendre. Et puis nous, ayez pitié de tous ceux qui sont dans les hôpitaux. Enfin non, et puis les gens qui y sont, les pensez que ça peut être demain, ça peut être vous, ça peut être votre famille, ça peut être un proche, un ami, ça peut être n'importe qui. Donc non, restez chez vous, s'il vous plaît, restez vraiment chez vous. Voilà.
Bon, ben, enfin, on aurait sûrement encore des heures à tenir, mais après, enfin, on peut peut-être espérer que t'aies encore une fois du temps dans quelques temps. Toi ou même des collègues, non mais vraiment, enfin, je pense que si la causerie peut aussi servir de haut-parleur pour des gens qui finalement ont très peu de lieux de où ils peuvent s'exprimer, et ben enfin ça sera la porte est grande ouverte et les micros aussi sont grandement ouverts. N'hésitez pas quoi, il faut que ça éclate dans la gueule des gens de le monde dans lequel ils vivent quoi.
C'est ça. Non mais il y a pas de souci. Après moi je t'avoue que de mon côté mes collègues à chaque fois me disent non mais toi tu parles bien.
En tout cas, on les salue et on leur apporte tout notre soutien parce que c'est pas à toi comme à tes collègues parce que vous vivez vraiment pas une période facile et puis aussi aux résidents parce qu'après tout tout le monde est un peu dans le même
bateau. Surtout mes résidents. Voilà, surtout mes résidents.
Et ben merci.
Allez, ben merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Ciao, bon courage.
Soy esta que las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Y retiemble en sus centros la tierra.
Et vous êtes bien de retour sur Radio Canut à la causerie sur 102.2. Nous venons d'écouter notre interview de Delphine. Et pour information, nous avons écouté une chanson à la mi-interview de Mylène Farmer qui s'appelle « Maman a tort ».
Et là, nous venons d'entendre le titre « Canción sin miedo » de Bibir Quintana featuring El Palomar.
Voilà, et qui est un hymne féministe mexicain écrit contre les féminicides.
Exactement. Voilà.
Et donc, on a pu voir dans l'interview que Delphine nous a donnée qu'il y a un manque cruel de moyens humains surtout et de moyens aussi, dans les EHPAD. Et en fait, MK, on va révéler quelque chose ce soir, c'est que toi, tu travailles aussi dans le domaine médical. Est-ce que tu corrobores un peu ce qui a été dit en termes de manque de moyens, de tension, de tout ça, quoi, en fait?
Je peux que affirmer ce que vient de dire Delphine. Effectivement, on est un petit peu les oubliés de ce système de santé. Déjà qu'il va très mal. Et heureusement qu'on donne beaucoup de moyens dans les hôpitaux et c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que là où je travaille, c'est auprès de personnes handicapées, un foyer d'accueil médicalisé. Et les moyens, c'est les moyens du bord, en fait. On se débrouille tout seul. On n'a pas du tout de distribution de masques ou de gants ou de matériel nécessaire pour se protéger, nous et ainsi que les résidents, de la part de l'ARS, par exemple, ou des autorités locales comme les villes et les mairies, par exemple. On se débrouille nous-mêmes, en fait, pour trouver et chercher des stocks. Donc, pour ma part, moi, je viens en renfort dans un établissement parce que là où je travaille actuellement, c'est fermé. Donc, on vient en aide à d'autres établissements. Donc, par rapport aux EHPAD, l'avantage, c'est qu'on est des personnes supplémentaires disponibles. Du coup, on vient renforcer les équipes sur place. Du coup, on arrive parfois à être en surnombre, et tant mieux d'ailleurs, parce que la vie est un peu difficile d'ailleurs pour les résidents qui doivent être confinés dans leur studio. Et on n'est pas assez quand même pour pouvoir justement être au quotidien à côté d'eux. Voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même très difficile, malgré tout, avec les manques de moyens qu'on a. Les masques, on en a deux par jour. Alors, c'est vraiment la guerre des comptes, en fait. C'est vraiment la guerre des chiffres dans ces genres d'établissements. Je dirais pas qu'on a de la chance parce que, justement, on parlait en off par rapport à combien tu as de masques, toi, combien j'ai de masques ici. Tu as de la chance, tu as plus de masques que moi, mais en fait, c'est pas une question de chance. C'est malheureusement, il y en a qui sont moins lotis et c'est pas parce que j'en ai plus que je suis bien loti, en fait.
On va rappeler que deux masques sur une journée, c'est pas beaucoup non plus.
Non. Et puis, sachant que les résidents n'en ont pas, c'est juste pour le personnel soignant.
On a vraiment un manque de moyens de partout en ce moment. Surtout chez les relégués de la vie, parce que si bien dans une EHPAD qui était plutôt pour les personnes qui ont peu de moyens que toi, qui est auprès du personnel des personnes handicapées, on se rend compte que finalement, c'est un peu ceux qu'on oublie au passage, quoi.
Complètement, oui. Comme totalement, parce que du coup, en fait, c'est là, il y a différents établissements auprès des personnes handicapées et des fois, on utilise leurs propres moyens. C'est leur stock à eux aussi. Ils participent financièrement au matériel, en fait. Parce que chaque résident ne peut pas avoir 36 000 boîtes de gants dans leur chambre, ne peut pas avoir 36 000 masques. Les masques, ils n'en avaient pas au préalable. Mais par exemple, ceux du blues pour pouvoir faire des soins de nursing, c'est décompté aussi, en fait, selon un solde. Donc voilà, quoi.
Ouais, c'est un truc commentable, quoi.
Voilà, exactement.
Ouais, en fait, c'est toujours cette logique des chiffres et cette logique économique ou que ce soit, parce que enfin tu disais l'hôpital a un peu plus de moyens, même là quand on voit déjà, enfin je trouve que il y en a déjà pas assez finalement pour les hôpitaux, et se dire que pour les autres ce n'est qu'encore pire, hein, c'est juste complètement fou. Et qu'en même temps, encore une fois, oui, ça rejoint ce que vous disiez, c'est que, et ce qu'on disait dans les autres causes, c'est que c'est l'amplification en fait des états qu'il y avait avant, quoi. C'est-à-dire que c'était déjà la merde, il n'y avait pas forcément beaucoup de moyens dans certains milieux. Et ben, ça fait que s'amplifier, c'est que encore plus dramatique, quoi.
Et ce qui était encore plus malheureux, c'est que ça cause une désorganisation. C'est un petit peu le parallèle avec ce que fait l'État au début de crise, avec une mauvaise gestion, une désorganisation, du retard pris. On se rend compte que même au niveau des établissements, la direction, bah, c'est pareil. On se dit, mais c'est incroyable comment ils peuvent prendre du retard, comment ils peuvent être si désorganisés et reproduire le même schéma et redire le même discours en plus. On a eu des discours en début de crise. Non, mais le masque, vous savez, c'est pas obligatoire. Il suffit de garder la distance. Ah, mais là, il faut en mettre quand même. Ah, bah, après, un coup, on n'en a plus. Un coup, on en a. Et par exemple, là, on n'a plus de gants. On a tout vidé les stocks. On en a mis dans les chambres. On peut tenir encore un ou deux jours, quoi. Et il y a tous les jours presque des réunions, pas de crise, mais des réunions pour pouvoir voir comment faire pour se débrouiller.
Ouais, donc c'est vraiment de la gestion du comment on peut, quoi.
Bah, c'est de la gestion à flux tendu, quoi, au jour le jour, quoi.
Ouais. Et on se rend compte encore là qu'il y a absolument aucun stock. Enfin, on est vraiment, enfin,
ouais, il
y a rien de prévu. Et ouais. Alors après, évidemment, c'est facile de dire après, ils auraient pu prévoir. Mais je pense que ça doit nous interroger quand même largement sur effectivement quel stock on s'autorise à avoir, quoi.
Je suis désolé de le dire, mais dans la santé, qu'on ne prévoit pas une épidémie, c'est quand même quelque chose qui est la base, et c'est pas normal que justement on ait fait des économies en ne prévoyant pas une épidémie.
Parce que clairement. Ah bah oui, c'est sûr. Ah mais complètement.
Il faut toujours prévoir le pire.
Et ça, c'est malheureux, ça fatigue le personnel, ça les pousse à bout, et puis je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire après ce confinement, quoi. Il faudra faire remonter tout ça, quoi. C'est des revendications qui seront certainement menées à terme après.
Eh ben, ça tombe bien parce qu'entre ton témoignage et celui de Delphine, finalement, vous vous rejoignez. Parce que l'idée, c'est de dire, après ça, on va surtout pas reprendre notre petite vie normale, mais on va plutôt aller lutter pour avoir plus de moyens et plus de moyens de sauver des vies. Et ben, justement, pour accompagner ça, on va se quitter avec un titre qui nous appelle à être tous camarades.
Oui. C'est ça. Mais c'est merveilleux toutes ces choses-là. Eh bien, on va se quitter, oui, effectivement, avec le titre Camarade de Dubamix, issu de leur tout dernier album au même nom, Camarade. Et puis, bon, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, confiné encore, mais toujours debout, toujours vivant et en essayant de continuer de garder un peu la niaque.
Eh ben voilà, des bisous à tous. Courage à tous ceux qui sont obligés d'aller bosser et tout et courage à tous ceux qui sont obligés de subir cette saloperie. Et tout voilà. Ça. Et toutes celles, bien sûr, évidemment. Voilà. Des bisous.
Des bisous à, la bisous à tous. Bisous.
Révolution du monde arabe.